France Culture. Bonjour, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Christelle Anger, réalisé par Vivian Lecuivre. Et à la technique ce matin, c'est Marie-Claire Oumabadi. Depuis des mois, dans plusieurs pays d'Afrique australe, des peuples remettent en cause l'hégémonie d'acteurs au pouvoir depuis l'indépendance. Dans les rues ou dans les urnes s'exprime un désir de changement. Changement qui a eu lieu au Botswana et sans heurts, nous en parlions hier. Au Mozambique, en revanche, l'État-parti s'accroche depuis l'élection contestée du 9 octobre dernier.
Daniel Chapo, 65,17%.
Venancio Antonio Bila Mondlane,
24,19%.
Je proclame élu
président de la République du Mozambique,
Daniel Francisco Chapo.
Je souhaite être le président de tous les Mozambicains, unis. Ensemble, engageons un dialogue ouvert et constructif. Le développement du Mozambique ne passe pas par les manifestations dans les rues, mais par la paix.
Ici, dans la rue, il n'y a personne qui n'a pas voté. Et maintenant, on veut la justice électorale. Si notre pays est une démocratie, qu'elle se fasse entendre.
Les hommes peuvent trahir, mais le peuple sera toujours là. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et Venancio est avec le peuple.
Cela pourrait être un roman de l'écrivain mozambicain Mia Couto, où errent les âmes des morts enterrées à la va-vite sans les rites funéraires transmis par les anciens. Des âmes qui repensent à la balle qui a transpercé leur corps, à cette chose devenue en un instant une boule de feu sillonnant le ventre. Quand Mia Couto a adhéré au Frelimo, le parti de l'indépendance, il ne savait pas que ce parti finirait par se confondre avec l'État et à se retourner un jour contre le peuple, à tirer contre lui à balles réelles ou à lancer sur les manifestants des voitures à grande vitesse. La plateforme de la société civile Decide compte près de 300 morts depuis 3 mois. Le 9 octobre dernier, dans ce pays lusophone du sud de l'Afrique, juste en face de Madagascar, était déclaré vainqueur de l'élection présidentielle le candidat du Frelimo, Front de Libération du Mozambique, qui gouverne le pays depuis l'indépendance en 1975. Aussitôt les résultats proclamés, des milliers de personnes descendaient dans les rues de Maputo, la capitale, pour protester contre une victoire qu'ils estiment volés. Ce mercredi, le président Daniel Chapo doit être officiellement investi, mais un homme appelle les Mozambicains à semer le chaos dans le pays. Dernière chance, dit-il, pour sauver la démocratie mozambicaine. Cet homme s'appelle Venancio Mondlane. Il ne fait pas partie du traditionnel parti d'opposition, la RENAMO. C'est un franc-tireur politique et il revendique la victoire. Bonjour Éric Morier-Genoux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire africaine à l'université Queen's de Belfast, spécialiste du Mozambique. Bonjour Domingos Manuel do Rosario.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes professeur de sciences politiques et d'administration publique à l'université Eduardo Mondlane de Maputo, la capitale du Mozambique, où vous êtes actuellement. Et je vous en remercie. De quelle ambiance, d'abord, de quel climat pouvez-vous témoigner ce matin, jour de l'investiture du président Daniel Chapo?
Bien. D'abord, merci à vous de m'avoir invité pour participer dans cette émission.
On est très heureux.
À Maputo aujourd'hui, c'est les jours est un peu, le climat est un peu tendu. Depuis hier soir, les forces de la défense et de la sécurité fuient les quartiers et tirent à balles réelles depuis hier soir.
Encore.
Toutes les rues qui donnent accès à la ville de Maputo sont bloquées et les gens n'ont pas accès à la ville à ce moment. Maintenant, j'étais en train de regarder le discours du président Daniel Chapo. Mais après ça, j'étais obligé d'interrompre juste pour venir ici parler
pour être avec
vous.
Nous.
Mais la situation à Mapoto n'est pas bonne.
Venancio Mondlane, l'opposant, le troisième homme dont on va avoir l'occasion de reparler, on a le temps d'en parler, mais lui, il est rentré au Mozambique il y a quelques jours, c'était jeudi dernier, et il a invité ses partisans et les habitants de Maputo, mais du Mozambique entier, hein, la contestation ne se limite pas à la capitale, à paralyser le pays, à mener 3 jours de grève. Est-ce qu'elle est tenue pour l'instant, cette grève? On en est justement au troisième jour.
Ah oui, bien sûr, mais à Maputo, la situation, elle est un peu compliquée parce que Venancio, c'est lui qui donne des ordres maintenant. Hier, on a même pas travaillé. On est allé voir les services publics étaient fermés. La circulation à Maputo, elle était réduite. Les gens, ils étaient à la maison. Moi-même, j'essayais de quitter la maison juste pour aller dans une répartition publique, et la répartition publique, elle était fermée. C'est-à-dire que les gens ont adhéré à la convocation, à la grève du candidat qui a perdu les élections, Monsieur Venancio Mondlane. Pourquoi? Parce qu'on croit maintenant que les gens croient que Venancio Mondlane, c'est lui qui a gagné les élections. C'est lui qui a gagné les élections. C'est juste pour cela que les gens maintenant, soit les jeunes qui sont dans la rue, soit les gens, les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires publics qui sont à la maison. Ne sont pas à la rue.
Et les poubelles s'accumulent également dans les rues du pays. La mairie de Maputo dit que c'est parce que ses prestataires de services ont été vandalisés. Elle n'aurait plus de camions poubelles. Elle s'en est fait prêter en attendant par une commune qui est à 600 km de la capitale. Ces poubelles utilisées pour remplir les locaux de l'État, aussi de tous les manifestants qui s'en saisissent, non pas comme des projectiles, mais aussi pour faire des barricades. Alors, en effet, vous dites aujourd'hui, c'est Venancio qui donne les ordres. Il s'appelle comme ça, c'est le troisième homme. Et quand il parle de lui-même, il s'appelle Venancio. S'il donne les ordres, c'est parce que quand il est revenu à Maputo, il a mis en scène une prestation de serment symbolique, Bible en main.
Je jure solennellement de servir la patrie et le peuple du Mozambique. Je jure de respecter les lois et la Constitution. Je vous dis cela en tant que président élu. Je suis venu pour montrer que je ne crains pas la justice. Je vais me défendre et prouver qui sont les vrais coupables.
Venancio Mondlane, qui avait quitté le Mozambique juste après les élections qu'il estime avoir gagnées. Il avait quitté le Mozambique parce qu'il fuyait les violences post-électorales et disait craindre pour sa vie. 2 de ses proches ont été tués. Qui est-il, Éric Morier-Genoux, vous qui suivez la politique mozambicaine depuis longtemps? Comment est-il apparu dans le paysage politique du Mozambique?
Alors, Venancio est un politicien depuis, je pense, une décennie. Il est aussi un commentateur politique. C'est aussi un pasteur pentecôtiste. Donc, il a plusieurs chapeaux, si je peux dire. Mais il était au Parlement toutes ces dernières années pour le parti de la Renamo. Il a passé par plusieurs partis, une trajectoire assez compliquée. Mais il était surtout, et je pense que c'est la chose la plus importante à souligner, le candidat pour les élections municipales à l'automne 2023, et il était le candidat pour devenir le maire de la ville de Maputo. Les élections ont vu énormément de fraudes, et de nouveau, il pense avoir gagné la municipalité de Maputo, ce que les observateurs indépendants ayant fait un comptage parallèle confirmaient, mais la victoire lui a été volée, c'est ce qu'il dit du moins. Du coup, il s'est fâché avec la Renamo qu'il estimait ne l'avoir pas soutenu suffisamment, et il s'est positionné de manière indépendante pour ces élections nationales cette année. Et donc c'est un homme d'expérience du vécu par son âge, mais un homme d'expérience politique, avec donc toute une trajectoire au Parlement, comme je vous disais, de campagne. Il est très bon pour mobiliser les troupes. Et ce qui était important ces derniers 3 mois, c'est que c'est un pasteur pentecôtiste avec une expérience pour mobiliser les foules, et il a eu un accent... un excellent orateur, exactement. Et il avait un discours assez prophétique qui mélangeait le religieux et le politique. Certains voyaient en lui une réincarnation un peu de Samora Machel. D'autres voient uniquement le pasteur et s'inquiètent de ses élans pentecôtistes. Mais le peuple a vibré et donc ces manifestations contre la fraude électorale ont été très mobilisatrices. Et il est vraiment devenu l'espoir de la population mozambicaine pour que le régime change, comme ils disent, hein, et c'est le grand espoir qui continue encore aujourd'hui, malgré le fait que le président Chapeau ait été investi ce matin.
Alors, pour bien rappeler le contexte politique du Mozambique, puisque vous avez parlé de la RENAMO, donc c'est le parti d'opposition depuis toujours au FRELIMO, le Front de Libération du Mozambique, qui gouverne le pays depuis l'indépendance en 1975. La RENAMO, c'est le parti qui s'oppose à lui. Simplement, en effet, ce nouvel homme apparu sur la scène, il n'est pas si nouveau, il a fait partie de la RENAMO, il n'en est plus. Aujourd'hui, il est franc-tireur, il s'est présenté sous la bannière d'un parti qui s'appelle Podemos, même s'il l'a rejoint assez tardivement pour ses élections. Alors, il se considère comme le véritable vainqueur d'une élection volée. Domingos Manuel do Rosario, quelles preuves, quelles images, témoignages ont été collectés pour qu'une si grande partie de la population aujourd'hui en soit convaincue avec lui?
Tout d'abord, il faut peut-être ajouter dans ce que Eric a dit. Venancio aussi, avant de joindre la RENAMO, il a fait partie de MDM aussi. Et après ça, il a quitté le MDM. Il fait partie de la RENAMO. Ce qui est plus important dedans, c'était l'invité d'Afonso Dhlakama juste pour remplacer Afonso Dhlakama.
Oui.
Ça, c'est très important. Ah.
D'accord, ça vous paraît important. C'est vrai que pour nous, ici en France, c'est plus difficile. On maîtrise moins les arcanes et les détails de la politique politicienne au Mozambique. Peut-être les grandes dynamiques et les grands mouvements sont importants et plus faciles pour nous à comprendre, puisque Domingos Manuel do Rosario, au-delà des revendications électorales, il faut aussi connaître un peu l'histoire plus ou moins récente du Mozambique pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui et cette scène politique mozambicaine qui a été tenue pendant si longtemps par ces deux partis, la Frelimo, le Frelimo et la RENAMO.
Oui, en fait, quand on regarde la politique au Mozambique, la question politique au Mozambique, on pourrait couler un peu pour aller à 1992. C'est quoi 1992? 1992, on a signé les accords de Rome.
Après la guerre civile, à la fin de la guerre civile qui commençait en 1977.
Oui. C'est là où on peut commencer juste pour faire une interprétation de la politique aujourd'hui au Mozambique. C'était la RENAMO et les Frelimo qui ont signé un accord, ils ont mis à côté la société mozambicaine.
Ils l'ont mis de côté.
Ils l'ont mis à côté, au marge de la scène politique, la population. C'est la RENAMO, la Frelimo. Donc, la façon dont on commençait à faire la politique, c'était basé sur le clientélisme politique. C'est qui fait partie des institutions? C'est la RENAMO, la Frelimo qui fait partie des institutions. Mais dans cet clientélisme-là, le problème, la RENAMO n'a pas d'argent. C'est le clientélisme de l'État. Le Frelimo utilise l'État, juste pour payer les dirigeants du RENAMO juste pour faire la coligation avec les Frelimo et laisser le peuple à côté, aux marges de la scène politique mozambicaine.
Et d'ailleurs, donc, il n'y a qu'à voir les députés élus au Parlement lundi dernier. Certains ont 80 ans, c'est leur énième mandat. Tout le monde les connaît, ils sont là depuis toujours. Et jusqu'à ce qu'on commence à remettre en cause aujourd'hui la légitimité de tous ces hommes politiques qu'on voit depuis toujours. C'est ça. Donc, pour bien comprendre Manuel do Rosario, il y a eu cette guerre civile qui a commencé 2 ans après l'indépendance en 1977, qui a opposé le Frelimo, Front de Libération du Mozambique, au pouvoir, qui se disait à l'époque marxiste-léniniste, on verra, ça a pas mal changé, et la guérilla de résistance nationale mozambicaine, donc la RENAMO, d'orientation à l'époque anti-marxiste et soutenue par l'Afrique du Sud et les États-Unis. Voilà pour le contexte historique qui nous explique bien des choses aujourd'hui, puisqu'après la guerre civile, vous le rappeliez, il y a eu la signature de ce traité de paix entre les deux partis qui se sont quelque peu divisés le Mozambique, partagé le pouvoir en quelque sorte, même si la RENAMO est toujours restée dans l'opposition. Éric Morier-Genoux, sur là ce qui est en train de se passer depuis quelques semaines, maintenant, maintenant. Je vous pose cette question de savoir quelles preuves on a aujourd'hui, quels témoignages recueillis qui parlent de la fraude qu'utilise aujourd'hui le Frelimo pour se maintenir au pouvoir.
Alors, le professeur de Rosario est bien placé pour vous répondre, mais je commencerai peut-être par donner quelques éléments. Donc, il y a eu des observateurs internationaux et des observateurs nationaux, le principal étant, travaillant d'ailleurs avec l'Église catholique, et ils ont fait une observation donc du vote et du dépouillement et du décompte des votes. Et c'est là que les observateurs nationaux, comme les observateurs internationaux, l'Union européenne, les Américains, la communauté des pays lusophones, ont tous noté qu'il y avait non pas tant une fraude sur le vote lui-même, il y a eu avant sur la préparation des élections, et lors du dépouillement et du décompte, il y a eu une falsification assez plus que significative. Et donc, ces élections ont été dénoncées par tous les observateurs, et ce qui, évidemment, ne peut que confirmer le peuple dans ce qu'ils ont vu eux-mêmes au jour le jour lors de leur propre participation aux élections.
Donc, achat de voix, bourrage d'urne, dépouillement frauduleux, tout l'attirail classique, en somme, de la fraude électorale. Domingos Manuel do Rosario, est-ce que des mouvements citoyens s'étaient organisés pour éviter les fraudes, comme on l'a vu aux Comores, par exemple, l'année dernière, on en parlait lundi. Est-ce que des organisations de la société civile s'étaient organisées, justement, réparties sur le territoire pour surveiller le scrutin?
Oui, bien sûr. Par exemple, moi, je travaille toujours juste pour aider les mouvements de la société civile. Et ces élections, depuis 2023, je travaille sur la plateforme Mais Integridade. Et Mais Integridade, pour les élections de 2024, on a eu presque 1500 observateurs. C'est vrai qu'on a eu des barrières depuis le début du processus de recensement électoral. La crédenciation des observateurs était refusée par les autorités locales. Même pendant les jours de vote, on a eu les observateurs de la société civile ont été expulsés du bureau de vote. Les délégués des partis politiques aussi ont été expulsés par les autorités politiques et par les présidents du bureau de vote pour que la fraude puisse être faite. C'était les élections les plus frauduleuses dans l'histoire politique de Mozambique. Mais ça, c'est facile à comprendre. Le Frelimo a fait un truc particulièrement ce qu'on appelle la décentralisation de la fraude. Ils ont donné le pouvoir aux autorités politiques locales de faire la fraude. C'est juste pour cela qu'on a vu par la première fois les achats de votes, la violence, je dis ça, c'est le plus important, madame, la violence pendant les jours d'élection ont empêché les citoyens d'aller voter, ont empêché les observateurs d'observer les élections. Tout ça, ils ont fait juste pour que les Frelimo puissent gagner les élections. Donc, vous ne croyez pas la magnitude de la fraude qu'on a eue dans les élections de 2024 au Mozambique. C'est juste pour cela que le Frelimo a eu presque 1191 députés dans l'Assemblée nationale. C'était juste à cause de la fraude, c'était une fraude massive, donc même pendant les élections de 2024.
D'où plusieurs intellectuels au Mozambique qui disent arrêter de parler du Frelimo comme d'un parti hégémonique, puisque cette hégémonie est obtenue désormais par la fraude. Vous parliez de la violence le jour du scrutin, mais aussi après. Éric Morio-Genoux, la répression de ces manifestants, répression sanglante, si on s'en tient aux chiffres de la plateforme de la société civile, décide, je l'ai anglicisé tout à l'heure, je ne sais pas comment on le prononce, mais cette plateforme qui dénombre 300 morts. Est-ce que cette répression est le fait de l'armée ou de la police qui donne l'ordre, qui exécute au Mozambique?
Alors, on a passé les 300 morts, je crois, cette semaine. Et c'est une répression qui était massive et systématique, qui est principalement faite par la police, l'armée, avant les élections et après les élections, lorsque le gouvernement leur a demandé d'aller dans les rues, a refusé de participer à cette répression, a essayé de contenir la police et donc s'est positionné de manière très intéressante en disant qu'ils étaient là pour défendre les institutions et la nation et pas des intérêts politiques. Donc c'est vraiment la police et des escadrons de mort. Maintenant, c'est établi depuis quelques années avec preuve à l'appui qu'il y a donc des escadrons de la mort. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est les élections ont eu lieu le 9 octobre. L'opposition, donc le Podemos et Venancio Mondlane, dont on parlait, ont organisé un recours auprès du tribunal suprême. Et quelques jours avant d'aller soumettre le recours au tribunal, les deux principaux avocats ont été assassinés dans la rue par des escadrons de la mort, ce qui a engendré encore plus de manifestations. Les manifestations ont été réprimées par la police à coups de gaz lacrymogène et de balles réelles. Et il y a eu un engrenage qui s'est mis en marche de plus de manifestations, plus de répression. Et en novembre, on a vu une transformation où le Venancio Mondlane a poussé ses supporters d'aller prendre le pouvoir à la présidence. Et je dirais en novembre, donc on passe à une protestation quant aux élections, à une tentative de renverser le régime, comme ils appellent. Et en décembre, on voit encore quelque chose de plus grave, c'est les contestation du modèle économique et politique. Et là, on voit la population attaquer des postes de police, des sièges de partis, attaquer des grandes entreprises et des attaques violentes de milices, etc. Et là, on s'approche d'un modèle proche d'une révolution ou même d'une guerre civile.
Une guerre civile, on en parle de plus en plus quand on voit apparaître aussi dans les rues des milices traditionnelles du centre et du nord, les Naparama. C'est ça, Domingos Manuel do Rosario. Qu'est-ce que c'est que ces milices dont on parlait pendant la guerre civile? Elles réapparaissent? Est-ce qu'elles réapparaissent à l'occasion de ces manifestations où elles n'avaient jamais vraiment disparu? Elles n'avaient jamais été désarmées?
Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, les c'est très intéressant. Pourquoi? Oui, les Naparam, parce que les Naparam avaient disparu depuis les accords de paix. Mais ce qui est plus important maintenant, c'est la lutte contre le régime. C'est juste pour cela que même les Naparam, ce qu'ils font maintenant, c'est juste détruire tout ce qui représente l'État au niveau local. C'est la police, c'est le battement de administrateurs, c'est les Naparama, c'est le peuple qui est contre l'État.
Voilà, elles sont venues aider les manifestants, les Naparama, et elles ont même attaqué des policiers, donc d'où cette ambiance que d'aucuns qualifient de guerre civile. Donc vous disiez qu'elles n'ont pas été désarmées à la fin de la guerre. Il faut juste rappeler qu'elles sont aussi mobilisées dans le nord du pays contre l'insurrection djihadiste que connaît le nord dans la région de Cabo Delgado depuis quelques temps. Donc ces violences post-électorales ont décompte aujourd'hui 3000 personnes à peu près à fuir à l'étranger, dont l'écrivain Miyakuto d'ailleurs que je citais tout à l'heure et qui s'est départi du Frelimo.
Ce monde, ça suffit. C'est possible aujourd'hui de prendre la présidence. Ni la police, ni les forces étrangères ne pourront interférer. Aujourd'hui, c'est notre jour.
Nous voulons la vérité électorale, nous voulons que le peuple soit restauré. Ça fait 50 ans que le Frelimo nous fait souffrir. Ils disent qu'on est pauvre alors qu'on a combien de richesses dans le pays? Des pierres précieuses, du gaz, de l'électricité. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Nous pouvons.
On entend bien dans ces manifestations, Éric Morier-Genoux, et dans ce que nous a expliqué Domingos Manuel do Rosario, que ces manifestations ne sont plus seulement contre le parti, le Frelimo, mais aussi contre l'État, contre des lieux ou des personnes qui représentent l'État, comme si le parti et l'État ne faisaient plus qu'un à force d'être au pouvoir depuis 1975. Quel genre d'attaque contre l'État vous avez recensé, Éric Morier-Genoux?
Alors, je dirais que c'est une dynamique pré-insurrectionnelle. Qu'on voit. Et je pense que c'est le fruit, en fait, depuis le mandat du précédent président, Guebuze, d'une reconstitution d'un parti-État. Et il y a eu tout un effort, donc, pour reconstruire le parti Frelimo et l'installer, l'incruster, si je peux dire, dans les institutions de l'État. Et ce travail a été fait depuis 20 ans avec passablement de succès. Et donc, le parti et l'État se confondent. Et dans cette mesure-là, l'opposition le conçoit de la même manière, ou le peuple le conçoit de la même manière, et donc attaque les sièges de parti, mais attaque aussi les postes de police, attaque aussi les tribunaux, etc. Et c'est donc une dynamique profonde et je pense dangereuse. Je pense que la situation est limite. Et maintenant que l'investiture du président est faite, il va falloir qu'il change de cap très rapidement et essayer de calmer cette situation qui est pas simplement une situation politique, mais une situation sociale critique à limite, je dirais.
Peut-être voudra-t-il d'ailleurs ce président élu qui prête serment aujourd'hui, enfin qui est investi aujourd'hui, peut-être voudra-t-il diriger autrement. En tout cas, les Mozambicains qui manifestent n'y croient pas. Il y a eu aussi ce déboulonnage de plusieurs statues et notamment du général Alberto Chipande, un héros de la guerre de libération. Est-ce que, d'après vous, Domingos Manuel do Rosario, c'est aussi une manière de dire au Frelimo qu'il ne peut plus se reposer sur son fait d'armes, l'indépendance en 75, oui, mais il ne peut plus se satisfaire de ça pour se penser 50 ans plus tard toujours crédible et légitime.
Oui, oui. En fait, maintenant, on a dans une dynamique de crise. Personne ne croit plus au Frelimo. C'est que les gens disent, mais ça c'est les résultats de la façon dont les Frelimo en parti qui c'était le parti du peuple, mais au fur et à mesure qu'on a eu les années de l'indépendance, les Frelimo, les marxistes-léninistes, ils se sont transformés en les capitalistes. Les capitalistes, maintenant, ils ont oublié les peuples, les jeunes. C'est qui est dans la rue aujourd'hui? C'est les jeunes, en fait. Mais pourquoi on a démocratisé l'enseignement supérieur? C'est vrai que c'est un enseignement supérieur de bac qualité pour les pays, mais les gens ont accès à l'université maintenant. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens après l'université?
On va en parler avec votre collègue, d'ailleurs, Egidio Gwambe, pour le Focus tout à l'heure dans l'émission. Vous disiez que le Frelimo n'a plus rien de gauche, n'est plus ce parti marxiste-léniniste qu'il était à sa création. Il est devenu capitaliste et pro-business. Est-ce que ça veut dire que la RENAMO, parti d'opposition historiquement de droite, a aussi revu son positionnement en miroir des évolutions du parti au pouvoir c'est un peu, comment dire, gauchisé?
Non, la RENAMO n'existe plus quand même. Après le décès d'Afonso de la Cama, on a eu ce monsieur Youssouf Momad qui a pris le pouvoir au sein de la RENAMO, mais ce que j'avais dit au début de cet entretien-là, j'avais parlé du clientélisme. Ils ont le donné. Je crois que c'est pas parce que moi j'aime la guerre. Mais la seule source de légitimité qu'Afonso da Cama avait juste pour négocier avec le Frelimo, c'était l'armée. Mais qu'est-ce que Youssouf Momad a fait dès qu'il a pris le pouvoir? C'était engagé avec le Frelimo pour la démobilisation. Attention, madame, je ne suis pas à faveur de la guerre.
On a bien compris.
Mais c'était le seul moyen qui... Youssouf Momad avait juste pour continuer à négocier pour les Frelimo, pour les vraies politiques publiques d'inclusion au Mozambique. C'est juste pour cela que les derniers 10 ans de la gouvernance de Nyusi ont été des pires périodes de l'histoire du Mozambique. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de l'opposition. L'opposition est morte.
L'opposition est morte et ce nouveau venu, encore une fois, il faut que j'arrête de dire le nouveau venu, parce que ça fait un petit moment déjà qu'il est député, notamment Venancio Mondlane, il est arrivé hors de ces deux partis, de ce duel partisan. Comment expliquer, Éric Morier-Genoux, que le Frelimo, donc le parti historique de la lutte de libération au pouvoir depuis 50 ans, qui a en quelque sorte une grande expertise du pouvoir, n'ait aujourd'hui plus la science de s'en servir, en tout cas doit faire 1000 circonvolutions, fraudes et mensonges pour s'y maintenir?
Alors, le parti s'est transformé après la fin de la guerre civile en 1992 et est devenu très libéral ou néolibéral même. Et le parti s'est transformé, comme je vous disais, dans son mode de fonctionnement interne. Comme le disait le professeur de Rosario, il est devenu très... le terme m'échappe, mais fonctionner à coup d'achat, etc.
Clientéliste, oui.
Clientéliste, voilà. Et les principes ont disparu. Le parti s'est ensuite divisé en différentes factions, avec la venue de Armand Nguebouze comme président et qui s'est positionné contre le président Chissano. Et ensuite, quand il a s'agi de trouver un nouveau successeur au président Nguebouze, il y a eu une difficulté, le parti était divisé, ils ont choisi le président Nyusi parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et le système s'est vraiment implosé, je dirais, bien que ça fonctionne, mais devenu très kleptocratique. Et donc, cette machine ne marche plus. Et c'est vraiment, non seulement la machine ne marche plus, mais le gouvernement ne marche plus. Et c'était ça, je pense, la grande crise actuelle, c'est que les gens, vous le disiez au tout début de l'émission, les poubelles ne sont pas collectées, bien que vous payiez les impôts, les écoles ne marchent plus, il n'y a plus rien qui marche dans l'État. Et c'est ça contre quoi, en bonne partie, je pense que ces émeutes et cette protestation est contre ceci, le fait que l'État n'est plus là, l'État a disparu avec le frimo qui est tenu par un petit groupe et qui continue à lutter en interne encore actuellement. Et le grand défi du nouveau président qui a été investi aujourd'hui, ça sera d'essayer de mettre une nouvelle orientation, mais au vu de la division du parti et de ses dysfonctionnements, c'est loin de l'être sûr.
En tout cas, ce nouveau président, Daniel Chapot, il promet, non pas monts et merveilles, mais il promet qu'il réformera le parti et le système électoral.
Que notre système électoral nécessite des réformes profondes.
Notre système électoral nécessite une réforme profonde, ce sur quoi nous sommes tous d'accord. Nous avons besoin de construire une nouvelle architecture démocratique qui réponde aux aspirations de notre société et pas seulement aux intérêts partisans. Je veux profiter de cette occasion pour dire que je suis disposé à diriger ce processus de réforme.
Daniel Chapot, le président élu avec donc toutes les fraudes que vous avez pu nous expliquer l'un et l'autre, président du Mozambique qui est investi aujourd'hui donc. D'ailleurs, est-ce qu'on sait, Éric Morier-Genoux, dans quelle mesure lui et derrière lui tout un parti, le Frelimo, est aujourd'hui échange des bons conseils ou au contraire des constats d'incompréhension et de faiblesse avec tous les autres partis qui se maintiennent dans la région, cette fois plus largement en Afrique australe qui est au centre de notre série cette semaine, que ce soit avec par exemple ce qui se passe aux Comores, on en parlait lundi, ou alors le mouvement de libération populaire de l'Angola, ou le parti qui se maintient en Afrique du Sud depuis la fin cette fois de l'apartheid, l'ANC. Est-ce qu'il y a des discussions entre tous pour dire, voilà, que doit-on faire? On est là depuis si longtemps, comment se maintenir au pouvoir, ou au contraire, peut-être décider ensemble de jeter un peu de lest?
Tout à fait. Donc les partis qui sont issus de guerre de libération, l'ANC en Afrique du Sud, comme vous disiez, le MPLA en Angola au Zimbabwe, etc., se réunissent toutes les années pour discuter en fait d'une stratégie pour rester au pouvoir. Et il y a quelques années en arrière, les documents sont parvenus aux médias et donc on a une assez bonne idée de leur conception et qui est restée très anciennes de guerre de libération, de l'impérialisme, et les ONG seraient des sous-marins de l'impérialisme occidental qu'il faut combattre pour pouvoir rester au pouvoir, avec un discours donc très daté, très spécifique, mais très véhément. Et il y a donc collaboration, les partis se réunissent toutes les années et les gouvernements se soutiennent l'un l'autre. Et donc il y a vraiment une dynamique régionale, mais comme je vous le disais en introduction, la dynamique commence à changer. Le Botswana, le parti au pouvoir a perdu, bien que le Botswana était un cas peut-être un peu particulier, mais il y a une dynamique de contestation très forte parce que ces régimes, dans le fond, économiquement, vont pas très bien, ou les pays ne vont pas très bien, et donc il y a une forte contestation dans tous ces pays.
Des économies qui ne vont pas très bien et des peuples, des populations qui ne touchent pas les fruits de la croissance, quand croissance il y a, et c'est le cas aussi du Mozambique. La croissance est plutôt bonne, selon les chiffres officiels du Fonds monétaire international notamment, qui parle de un peu peu plus de 4%. Néanmoins, les fruits de cette croissance ne parviennent pas dans les porte-monnaies de tous. Domingos Manuel do Rosario, quelle place prend cette question-là? La question sociale, celle de la pauvreté, celle des inégalités, à la fois dans la contestation du Frelimo et aussi dans cette, ce qui semble être une forme de plébiscite de ce, nous, de Venancio Mondlane, du troisième homme.
Oui, bien, la question économique et la pauvreté, ça sont liés, mais dans les derniers 10 ans, on a rien vu. Ce qu'on a vu, c'était la corruption. La corruption a augmenté, la pauvreté a augmenté. Ce qu'on a vu pendant les 10 dernières années, c'était l'accaparement des fonds de l'État juste pour bénéficier les partis au pouvoir, les Frelimo. C'est ça, ce qu'on a vu là, pendant les derniers 10 ans. Mais moi, franchement, il y a deux choses que je dois dire par rapport à la question que vous avez posée. Aujourd'hui, Armando Guebuza, dans la cérémonie de l'investiture, il a dit une chose très intéressante. Il a dit que Chapo, il doit faire un miracle. Ça, c'est très important. C'était l'ancien président qui l'a dit ça. Faire un miracle. Pourquoi un miracle? Parce que la situation dans laquelle Mozambique se trouve aujourd'hui a besoin d'un miracle. Moi, je ne vois absolument pas Chapo, je ne sais pas dans quelle mesure Chapo il va changer cette situation. Pourquoi? Parce que Chapo, d'ailleurs, il connaît même pas la dynamique interne du Parti Frelimo. Et au sein du Parti Frelimo, comme le professeur Maurier Junot disait, il y en a comment je peux dire ça, les factions. Il y a la faction Guebuza, il y a la faction Chissano, il y a la faction Nyusi. Oui, faction au sein du Parti Frelimo. Donc, Chapo, il a besoin d'un miracle. D'ailleurs, pour comprendre le fonctionnement du parti politique et après ça, pour mettre à nouveau l'État du Mozambique dans les rayons d'un vrai État. Qu'est-ce qui arrive maintenant, c'est que l'État au Mozambique n'existe plus. Ce qu'on doit faire au Mozambique, ce n'est pas changer seulement le système politique. Ce n'est pas changer les institutions électorales. On doit changer le système politique. Quand on regarde le Parlement maintenant, c'est qui avoir la force? Est-ce que Chapo a la force de changer les institutions au Mozambique?
Alors, ce nouveau président, Daniel Chapo, promet, on l'a entendu, une réforme du système électoral. Il promet de travailler avec chaque couche de la société, la jeunesse, les femmes, les hommes, les anciens combattants. Il promet beaucoup la construction d'écoles et d'hôpitaux et de mettre fin aux violences dans le nord du pays avec ce groupe lié à l'État islamique qui sévit depuis déjà quelques années. Éric Morier-Genoux, juste un mot aussi du contexte dont il est difficile de se passer pour comprendre que le Mozambique est aussi plongé dans une crise de la dette qui ne permet pas aujourd'hui à l'État d'assurer une forme de croissance un petit peu plus élevée, une répartition. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ça remonte à déjà il y a 10 ans, mais le Mozambique en pâtit toujours.
Voilà, en 2013, il y a eu une crise de la dette, des dettes de plusieurs milliards qui ont été découvertes et qui étaient hors compte, qui n'ont pas été légalisées par le Parlement et qui ont amené les FMI et les partenaires internationaux à arrêter leur collaboration avec le gouvernement mozambicain, à ne plus financer le budget annuel du gouvernement. Et depuis, le gouvernement, le Mozambique a beaucoup de peine économiquement à reprendre le dessus. La prospective du gaz LNG aide et donne de l'espoir, mais la production n'a pas vraiment commencé, ou pas de manière significative. Donc le pays reste avec cette dette d'une part, et surtout la mauvaise impression et la décrédibilisation à cause de cette dette. C'est un énorme problème de crédibilité et le gouvernement, en conséquence de cela, n'a pas le droit d'emprunter, ne peut pas emprunter en international. Et ce qu'il a fait, c'est emprunter en interne et la dette interne du gouvernement a explosé, ce qui fait qu'il a mis en difficulté plusieurs banques, ce qui fait qu'il n'a pas assez d'argent pour payer les salaires, et donc l'armée, les soldats dans le Nord qui luttent contre le djihadisme ne reçoivent pas leur salaire, les professeurs ne reçoivent pas leur salaire ou en retard, ils ne reçoivent pas les heures supplémentaires, les médecins ne sont pas payés comme il faut, donc il y a une contestation et une dissatisfaction dans le pays qui est énorme, parce que simplement les employés de l'État ne reçoivent pas leur salaire, pas à temps, ou ne reçoivent pas les heures supplémentaires, et c'est une crise qui vient donc de cette dette illégale qui a été faite sous le gouvernement d'Armando Guebuza, avec comme un des principaux signataires le président Nussi, qui est donc sorti ce matin. Et c'est dans le fond, je pense, une dette qui a été créée par le parti Frelimo. Je pense que ça sert à rien d'essayer de chercher des personnes, des individus. C'était toute une série de gens qui ont été faites, mais ça a vraiment miné l'économie mozambicaine.
Donc cette dette contractée auprès d'une banque russe, ce qui a complètement cassé la machine, les discussions qui avaient été engagées avec le FMI qui refuse aujourd'hui de prêter à nouveau au Mozambique, etc. En tout cas, vous disiez que les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés ou avec beaucoup de retard. C'est le cas des professeurs d'université dans les universités publiques. On en parle juste après ce chanteur Nicotina KF. C'est l'une des voix du mouvement de contestation au Mozambique depuis 3 mois. Et Pray for Moz, sa prière pour le Mozambique, ici avec Johnny Beats.
Aqui tá mal e pai, por favor, tem piedade de nós. Disseram-nos que o povo é patrão, quando falamos nos tiram a voz. Eu só estava a mostrar aí, estou na rua a exigir os meus direitos. De repente, chefe tá a matar aí. Já não posso falar aí, só posso olhar aí. Governo maltratar e povo, governo maltratar e povo. Nos babaram na caça ao voto.
Só nos resta ajoelhar, olhar para o céu e falar com Deus. Pois ninguém sabe o amanhã, o que será no nosso Moz. Só nos resta ajoelhar, olhar para o céu e falar com Deus. Pois ninguém sabe o amanhã, o que será no nosso Moz.
Na Combela é isso. Vivemos com medo, tipo é mesmo endereço. Ao manifestar, por gostar do manifesto, é melhor pedir a conta, vais pagar um alto preço. Penso, seja proteção, o ir ou então ser nick. Bufos diferentes, mas é tudo mesmo shit. Juraram no gym, foi pela bandeira ou pela arma na flag de Moçambique. Na marginal está feta, um marginal atleta. A queimar pneus, já nem falo de dieta. Lume na mão esquerda, pedra na direita.
Pray for Moz, la prière pour le Mozambique du rappeur mozambicain Nicotina KF. Nous mettons sur le site de Culture Monde les références musicales de ce disque, comme nous le faisons d'ailleurs à chaque fois, j'en profite pour vous le dire. Nous avons parfois un tout petit peu de retard, mais elles sont toujours, ces références, affichées sur le site de Culture Monde. Au Mozambique, le Frelimo, le parti État, s'accroche. C'est le 3e épisode de notre série sur l'Afrique australe où s'exprime un désir de changement dans les rues de Maputo. Beaucoup de jeunes ont manifesté aussi parce qu'ils ne trouvent pas de travail et même les plus formés d'entre eux.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Le Mozambique compte toujours plus d'étudiants et toujours plus d'universités. Mais que faire d'un diplôme quand l'emploi est toujours verrouillé par le parti au pouvoir? Bonjour Egidio Gwambe.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis Maputo. Vous aussi, vous êtes en ligne depuis la capitale du Mozambique. Vous êtes professeur assistant d'administration publique et de sciences politiques à l'université Eduardo Mondlane. C'est une université qui porte d'ailleurs le nom du cofondateur du Frelimo. Cette université est déjà là au moment de l'indépendance du Mozambique?
Oui, elle était déjà là. En fait, c'est une université qui s'appelait Lourenço Marques. Et, donc après l'indépendance, là, le premier président du Mozambique Samora Machele l'a transformé à l'université Édouard Nouamjani, qui était plus ou moins pour forger les nouveaux leadership pour le pays qui devenait d'être indépendant, quoi. C'est une des trois universités qui était là juste après l'indépendance, avec l'université pédagogique qui était plus vocationnée pour préparer les enseignants, et une autre université qui s'appelle des relations internationales qui était plutôt pour forger les diplomates, quoi.
Donc il y avait quelques universités au moment de l'indépendance, trois grandes universités néanmoins, mais ce nombre a considérablement augmenté. Comment d'ailleurs ce nombre va progressivement augmenter d'année en année, et combien y en a-t-il aujourd'hui? Je crois une soixantaine.
Oui, exactement. En fait, après l'indépendance, comme on a déjà évoqué ça, c'était que trois universités, tous très encadrées par les partis au pouvoir. Mais après les années 90, avec la transition, la transition politique, mais aussi économique pour la ligne libérale du Mozambique, le marché a été ouvert. Donc on commence à voir beaucoup des universités, si on parle par exemple du numéro là, après cette transition en 1995 et jusqu'à 2021-22, jusqu'à maintenant on parle plus ou moins de 60 universités, on compte par exemple 25 publics, et après le reste sont des privés. Donc le marché des universités a été totalement ouvert. En nous multipliant dans les différentes régions du Mozambique, les universités publiques, mais aussi les universités privées. On parle beaucoup de massification, en fait, des universités. Hein, une inflation qui a connu dans ces derniers moments un très grand numéro.
Un grand nombre d'étudiants, alors près de 60 universités dans un pays qui compte 34 millions de personnes, une demande aussi de plus en plus forte. On va voir les problèmes que ça pose une fois que ces jeunes diplômés sont sur le marché de l'emploi. Mais d'abord, le fait que de plus en plus d'universités ou d'instituts universitaires soient privés, est-ce que ça change quelque chose dans la diffusion de l'idéologie du parti Frelimo? Puisque vous écrivez dans un article, Monsieur Gambé, que juste après l'indépendance, ces universités que le nouveau président Samora Machel à l'époque visite, il s'agit de former non seulement des hommes nouveaux dans la conception du nouvel État-nation, mais aussi des hommes capables de diffuser l'idéologie politique du Frelimo à travers le pays. Aujourd'hui, le fait que ces universités soient privées, est-ce que ça change quelque chose, ne serait-ce que dans ce rapport-là, État, parti, comme on en parle depuis tout à l'heure sur le Mozambique?
Oui, ça change. En fait, comme vous venez de parler avec mes collègues là, avec tous ces mouvements de transformation du politique du Mozambique, on voit aussi dans les politiques publiques sectorielles comme l'enseignement supérieur. Donc, si on parle par exemple du numéro des étudiants, on parlait dans le début des années 1990 de 4000 étudiants. Après, on parle de ces moments-là, on parle plus ou moins de 300 000 étudiants. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, ça change tout le processus du contrôle de l'enseignement supérieur. Si, au moment de l'indépendance, on était dans un cadre très bien contrôlé par les partis au pouvoir, on change beaucoup dans l'approche du travail des universités. Pas seulement parce que le parti n'est pas capable, même l'État en soi n'est pas capable de contrôler dans les lignes c'est quoi qui se passe dans
les
chaque
cours,
université. Oui, exactement. Mais aussi, c'est parce que la créativité de chaque université pour attirer les étudiants, ça devient aussi différent, hein, avec des conditions quand même qui sont, on dirait, moyennes, à la fois très précaires. Donc, dans tous les pays, c'est vrai qu'après le moment des premières élections, le parti même a essayé de politiser l'enseignement supérieur, c'est-à-dire chercher un peu de gouverner à partir de l'enseignement supérieur en le faisant un instrument de limiter les asymétries régionales par rapport au sud, au centre et au nord du pays. On voit par exemple exemple, je vous parlais d'environ 21 universités publiques. Ça, c'était plus ou moins une idée de contrôler politiquement comment on peut arriver à tout le territoire national avec cette idée de comment on peut diffuser aussi l'idée de construction de l'État par rapport à l'histoire officielle du parti au pouvoir à ce moment-là.
Mais c'est... Pour le recrutement, par exemple, Egidio Gambé, est-ce que une certaine proximité avec le parti au pouvoir, le Frelimo, est requise?
Oui, exactement. En fait, pour vous parler un petit peu de cette question de diplômé, hein, qui résulte aussi dans une inflation, hein, quand même de taux de chômage au Mozambique. Mmh. On parle plus ou moins d'environ 35% du taux de chômage au Mozambique. Et de diplômé, ça. Avec l'inflation des universités, on voit aussi l'inflation des gens qui sont en marché d'emploi. Et au même moment, si vous vous rappelez très bien les théories néolibérales, ça, des transitions en Afrique, ça, c'est général. Après qu'on fait cette transition, on change, en fait. On dit que l'État ou la fonction publique doit réduire le nombre de fonctionnaires. C'est-à-dire, elle n'a pas de contrat, elle n'embauche pas beaucoup de gens. Alors qu'à l'université, on forme beaucoup. Donc, c'est un peu contradictoire. Et alors, avec cette inflation, ça devient, en fait, l'accès à l'emploi, ça devient un enjeu politisé et partidarisé. Donc, pour avoir un emploi, il fallait quand même, là, il y a un bon contrôle, il fallait avoir une carte d'un parti. Donc, le Frelimo, notamment. Donc, si vous étiez dans les recherches d'emploi, dans la fonction publique, c'est presque impossible de trouver un emploi alors que vous n'étiez pas une carte du parti politique au pouvoir. Donc, ça, c'était l'idée, mais ça devient aussi très difficile, parce que même avec cette contrôle, avec la carte du parti, ça devient beaucoup. Donc, là, il y en a beaucoup de gens qui cherchent l'emploi avec la carte du parti. Donc, là, la théorie change un petit peu. Pour trouver un emploi, ça devient une théorie aussi que l'État met en jeu l'idée d'entrepreneuriat, c'est-à-dire les gens diplômés doivent eux-mêmes créer l'emploi. Voilà, ça, c'est...
Pas de politique d'intégration des jeunes dans l'emploi. Des présidents qui se sont succédés au pouvoir ces dernières années vantent plutôt les petits entrepreneurs, le développement de l'auto-entrepreneuriat. Est-ce que, peut-être pour conclure, est-ce que beaucoup de vos étudiants ont manifesté ces derniers mois contre l'élection présidentielle et au-delà contre la façon dont l'État s'occupe de ses citoyens, de ses services publics, de ses universités et de ses jeunes ?
Oui, oui, oui. En fait, c'est quoi qui se passe là? Qui ça devient, en fait, cette jeunesse est bien, plus ou moins bien formée, qui sont bien informés sur le développement de la planète. C'est-à-dire, pas seulement sur le Mozambique, mais aussi, c'est quoi qui se passe à dehors avec les réseaux sociaux, tout ça. C'est quoi qui se passe? C'est après l'inflation du taux de chômage aussi, de ces gens qui sont formés. On voit l'idée d'entrepreneuriat, surtout dans le dernier mandat du président Armando Guebuza, qui était avant président Nyusi. Lui-même, il a développé beaucoup l'idée d'entrepreneuriat. Mmh. Il a créé même des universités pour ça. Et puis les cours pour donner la capacité des gens de s'émanciper de l'État. Mais le problème, c'est que théoriquement, même si on a des gens qui sont en train de trouver des petits boulots, théoriquement, on n'a pas créé une idée de comment l'État pour c'est-à-dire créer ces opportunités pour les gens financiers et tout ça. Et après, le président Nyusi, il a totalement cassé l'idée de comment les jeunes formés pour trouver un emploi ou pour se créer lui-même des emplois. Voilà.
Merci beaucoup. Cette question a en effet ressurgi dans toutes ces mobilisations menées en partie par ces jeunes plutôt formés autour de cette question de l'emploi. Pas seulement, tout ça est beaucoup plus large. Merci beaucoup Egidio Gambé, professeur assistant d'administration publique et de sciences politiques à l'université Eduardo Mondlane de Maputo, d'avoir été avec nous et de nous avoir fait entendre aussi un petit peu, on entendait derrière vous, la ville qui vit Maputo aujourd'hui aux heures de l'investissement l'investiture du nouveau président contestée. Merci beaucoup Domingos Manuel de Rosario, également depuis Maputo, professeur de sciences politiques et d'administration publique à cette même université, Eduardo Mondlane. Et merci Éric Morier-Genoux, professeur d'histoire africaine à l'université Queen's de Belfast. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous nous emmenez, Catherine, au Nicaragua ce matin. La liberté individuelle et la liberté de la presse y sont un peu plus en danger chaque année.
Au point que les journalistes sont une espèce en voie de disparition au Nicaragua, titre El País América, ce qui explique peut-être que ce pays d'Amérique centrale ne soit pas sous les feux de l'actualité. Au Nicaragua, sous la coupe de Daniel Ortega depuis 2007, ex-guerriero, devenu autocrate, 46 journalistes nicaraguayens ont été contraints à l'exil l'an dernier, rapporte Diario Extra, journal du Costa Rica, où la Fondation pour la liberté d'expression et la démocratie alerte sur les disparitions forcées, détentions arbitraires, l'intimidation constante contre les voix critiques du pouvoir pousse de nombreux journalistes à démissionner, explique encore El País América. Depuis les manifestations anti-gouvernementales de 2018, réprimées dans le sang, plus de 300 morts, rappelle la Deutsche Welle, une cinquantaine de médias indépendants ont dû mettre la clé sous la porte au Nicaragua, leurs biens confisqués par l'État, 1251 jours précisément, par exemple, depuis la saisie des locaux de La Prensa, journal nicaraguayen, c'est écrit en une de son site. Près de 6000 associations, fondations et congrégations religieuses ont également été dissoutes par le pouvoir, relève Confidencial, ce qui a entraîné la suspension d'innombrables projets humanitaires, éducatifs, médicaux au Nicaragua. L'Assemblée nationale vient d'y annoncer l'entrée en vigueur de la réforme de la Constitution, ajoute Confidencial. Cette réforme prévoit de subordonner les corps judiciaires et législatifs à la volonté du chef de l'État, Daniel Ortega, donc, et son épouse et vice-présidente Rosario Murillo. En clair, pouvoir absolu de la famille Ortega Murillo, résume El Confidencial. La succession familiale est servie sur un plateau, s'insurge El País América. Un ministère de la promotion de l'entrepreneuriat a même été créé pour la fille du couple présidentiel, s'indigne La Prensa.
La peur du pouvoir palpable sur les 300 km de sentiers boueux qui séparent le Nicaragua du Costa Rica.
Où se sont réfugiés plus de 200 000 Nicaraguayens depuis 2018, explique El País América. Le Costa Rica, vieille démocratie, pays prospère, a toujours été la soupape de sortie d'un Nicaragua asphyxié par la pauvreté et les dictatures, précise El País. Mais depuis une réforme sur l'immigration, les exilés du Nicaragua, qui rendent visite à leur famille pour Noël et le Nouvel An, craignent d'être arrêtés en repartant au Costa Rica ce mois-ci. Cette crainte est partagée par des milliers de défenseurs des droits de l'homme, des poètes, écrivains, musiciens, évêques, prêtres, pasteurs, religieuses, journalistes, agriculteurs, étudiants, féministes, hommes d'affaires, médecins, avocats, énumère El País América. La mécanique du pouvoir, l'autoritarisme du couple présidentiel Ortega Murillo, le journal Confidencial l'illustre en un dessin. Celui d'un tournevis et d'un écrou sur lequel est écrit « dictature » avec une vis portant les armes du Nicaragua, notamment ce triangle bleu, le soleil levant, un arc-en-ciel, des volcans verts et jaunes et un bonnet phrygien. Encadrant ce tournevis et cet écrou sur la dictature, une légende. Tout le monde sait ce qui se passe quand on veut visser un écrou à l'infini. Enfin, tout le monde, sauf ceux à qui il manque une case.
Pour conclure, Catherine Dutu, la presse états-unienne et allemande, d'ailleurs, qui se font l'écho de ce qui s'est passé cette nuit aux États-Unis.
L'audition de celui qui a été désigné par Donald Trump pour diriger le Pentagone, Pete Hegseth, ancien militaire, ex-présentateur de Fox News, il a subi un interrogatoire en règle hier au Sénat, analyse The Hill. Vous n'êtes pas qualifié pour devenir ministre de la Défense, a notamment lancé la sénatrice démocrate Tammy Duckworth, rapporte CBS. Cette ancienne pilote d'hélicoptère de l'armée et ses collègues démocrates sont revenus, comme le montre Forbes, sur les controverses et accusations contre le futur chef du Pentagone. Agression sexuelle, harcèlement, abus d'alcool sur son lieu de travail, mauvaise gestion financière, remarques sexistes sur les femmes dans l'armée, fausses accusations, campagne de diffamation coordonnée par les médias de gauche, a rétorqué Pete Hegseth, cité par The Hill et la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Les sénateurs républicains sont, eux, venus à sa rescousse. Et notamment, Mark Wayne Mullin, sénateur républicain de l'Oklahoma, sa prise de parole a interloqué plusieurs médias américains, dont le Washington Post, CBS News et NBC News.
How many senators have showed up drunk to vote at night?
Combien de sénateurs se sont présentés ivres pour voter le soir? Est-ce que l'un d'entre vous a alors demandé à ces personnes de démissionner de leur poste? Non, a lancé le sénateur républicain Mark Wayne Mullin, provoquant, on l'a entendu, des rires au Sénat. Et vous connaissez combien de sénateurs qui ont divorcé pour avoir trompé leur femme? Leur avez-vous demandé de démissionner? Non. Mais si je vous dis ça, c'est pour souligner l'hypocrisie face à un homme qui a fait des erreurs. Mais vous, vous montez sur vos grands chevaux et vous en oubliez la poutre qui est dans votre œil, a ajouté l'élu de l'Oklahoma dans une parabole toute personnelle. Parabole saluée par Fox News, mais raillée par une éditorialiste du Washington Post, pour qui les sénateurs républicains se sont couverts de honte en ne prenant pas au sérieux le rôle constitutionnel du Sénat. C'est le signe de l'influence accrue de Donald Trump sur les républicains, ajoute de son côté la Süddeutsche Zeitung. Un Sénat craintif exposé à l'ire du président élu, au risque aussi de ne pas être soutenu par les Trumpistes, souligne encore le Washington Post aux prochaines élections de mi-mandat en novembre 2026.
Merci beaucoup Catherine Dutu.